maintenant pour ne pas finir trop tard. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Voilà. Avant de commencer, je ne peux pas ne pas vous dire que j'ai eu la grande joie ce matin d'être à la cathédrale Notre-Dame avec les prêtres, les diacres du diocèse, et puis chaque paroisse avait quelques délégués, voilà, mais évidemment, c'était pas tout le monde. Il y a Julienne qui était là, mais elle a dû sortir. Julienne qui représentait la paroisse, bonsoir. Elle est là. Eh bien voilà, Julienne, alors racontez-nous, dites-nous en un mot.
Magnifique.
Magnifique, elle a dit magnifique, mais je confirme. Il y en a qui faisaient partie des délégués qui sont rentrés dans Notre-Dame, non?
Oui.
Parmi vous? Voilà. Voilà, ben vous verrez, vous y arriverez, rassurez-vous, les portes sont ouvertes. Il y a 6 mois d'ouverture, ça veut dire que vous pourriez dire j'y étais, encore au mois de mars, hein. Donc c'est génial. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Alors ils ont mis toutes les lumières, je pense pas que ce sera comme ça tout le temps. Donc c'est un peu, c'est plus vraiment Notre-Dame qu'on a connue, mais c'est une Notre-Dame qui n'est pas moins belle, qui est beaucoup plus lumineuse, qui est toute neuve, qui est l'impression qu'elle chante la gloire de Dieu, c'est le ciel, enfin c'est très très beau. Voilà, on voit aussi la qualité du travail des ouvriers. C'est assez impressionnant.
Et combien de prêtres il y avait autour de
l'hôtel? Je ne sais pas, mais la moitié de la nef, il y avait des prêtres.
Mais l'hôtel est petit.
Ah oui, mais autour de l'hôtel, il y avait quelques prêtres, mais les prêtres étaient dans l'assemblée. Voilà, alors, je pensais justement avec la fête de l'Immaculée Conception que le thème du jour va très bien. J'espère vous le montrer, sinon on le verra, on en reparlera à la fin. Mais la question du sacrifice d'Abraham, dont je parlerai tout à l'heure, voilà, qu'est-ce que c'est que l'offrande à Dieu? Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'Isaac. C'est toujours. D'abord, est-ce qu'il y a des questions de la dernière fois? Oui.
C'est une question. Avec la prise de Jéricho.
Oui.
Je fais partie de ceux qui ont été complètement déstabilisés, parce que ce qui est écrit dans la Bible, vous avez dit qu'il y avait eu des recherches archéologiques,
oui, oui.
Et que tout ça n'était pas réel, en fait. Et je me dis, moi je suis totalement déstabilisée, je ne sais pas si je suis la seule, et je me dis, si ça n'est pas réel, je veux dire, l'Ancien Testament, il tient sur quoi alors?
Alors, je me suis, merci pour cette question, c'est important que vous l'ayez posé. J'ai donné des éléments de réponse la dernière fois. J'ai dit qu'il y a dans le livre de Josué des éléments historiques qui sont tout à fait solides. Et l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire de l'Ancien Testament, c'est une histoire qui est solide et réelle. Mais vous avez des textes qui sont totalement des contes. Je vais donner l'exemple du livre de Jonas, par exemple. C'est un conte. Tout à fait un conte, ça se présente comme tel. Il y a quelques autres exemples. Il y a l'histoire de Judith, l'histoire d'Esther. Ce ne sont pas des vraies histoires. Voilà, il y a aucune. Voilà. Il y a des histoires. Donc, je me répète un petit peu. Hein. L'histoire de Josué, elle nous raconte l'arrivée du peuple hébreu sur la terre de Canaan. Voilà. Donc, des pasteurs, probablement. Hein, ils étaient majoritairement pasteurs. Ils arrivent en terre de Canaan. Il y a eu des batailles, il y a eu probablement des batailles très sérieuses. J'ai donné l'exemple de la ville de Hatsor, où on a trouvé des traces d'incendie, et la Bible parle, le livre de Josué parle de la conquête du Nord avec l'incendie de Hatsor. Donc comme très souvent dans la Bible, il y a des éléments historiques, donc vous pouvez tout à fait être sûr que l'histoire que vous connaissez est solide, Mais il y a des éléments qui ont été ajoutés, qui ont été amplifiés, et c'est très souvent comme ça dans la littérature biblique. Et ce n'est pas gênant parce que derrière ces ajouts, ces relectures, il y a une manière de dire Dieu conduit l'histoire et d'une relecture à une autre relecture. Une fois que l'archéologie nous dit quelque chose, l'archéologie, elle n'a aucun pouvoir sur, d'abord sur notre foi, et ensuite sur le fait qu'il y a eu une histoire qui est attestée par suffisamment d'éléments. Mais si je vous dis que tout est vrai, exact, du début à la fin, c'était un peu, alors ce qui existait dans la conscience beaucoup des catholiques à un certain moment, comme c'était tout ou rien, au XIXe siècle, quand des gens qui souvent n'étaient pas très bien intentionnés vis-à-vis de l'Église ont dit « Regardez, par exemple, Jéricho, les murailles, voilà, c'est déjà tombé, donc tout s'effondre. » Ah ben oui, tout s'effondre. Alors non, en réalité, l'Église a tout à fait intégré ces données de la science en essayant de les prendre sérieusement, en disant ben, « Finalement, non seulement notre histoire ne s'effondre pas, mais elle tient peut-être plus solide que certaines parties de l'histoire profane. » On voit qu'il y a des histoires nationales ou qui sont complètement des mythes et qui s'effondrent beaucoup plus. Un très beau texte de Lagrange, le père Lagrange, le dominicain de Jérusalem, qui a initié les grandes études bibliques. Le père Lagrange disait « Nous avons vu arriver la science du XIXe siècle, le positivisme hein, qui réduisait tout à la science expérimentale. Voilà. » Et qui disait « La Bible va s'effondrer et c'est la science là, qui va s'en sortir. » Et il disait déjà à la fin du XIXe siècle, ce mythe d'une science capable de tout dire était en train de s'effondrer. Et de façon assez grandiose, il dit « Eh bien, la Bible résiste mieux qu'on l'imaginait. Voilà. » Mais il faut admettre qu'il y a des textes qui sont... soit on n'a pas d'attestation archéologique, soit les attestations archéologiques disent le contraire, mais ça ne remet pas en cause l'essentiel du livre de Josué. Il y a eu une arrivée des Hébreux en terre promise, sûrement des batailles. J'ai donné un autre exemple qui est celui de, dans le désert, les batailles telles qu'on les raconte, quand on voit des esclaves qui sont encore des esclaves fugitifs, est-ce qu'ils ont pu constituer une armée? Alors ça, c'est pas... Nous avons un archéologue parmi nous, je ne sais pas si c'est un élément à prendre en compte ou pas, mais la vraisemblance des récits, hein, est-ce qu'on peut dire que... voilà. Hein. Mais donc, surtout que cela ne vous ébranle pas, je préfère, et j'étais bien conscient en vous le disant que je pouvais secouer un petit peu, mais je préfère vous secouer un peu dans un cadre où on dit tout cela est solide et il faut accepter de secouer un peu le... voilà, que de se laisser secouer par des articles de journaux qui, eux, vont tout balayer et prétendent vous dire la vérité alors que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc on a raison de croire à cette histoire. Moi, je crois à l'historicité d'Abraham. Voilà, c'est tout. Maintenant, d'un point de vue archéologique, il faut reconnaître qu'on n'a rien. Sinon, la mémoire de quelques noms, de quelques lieux. Voilà. Moïse, c'est pareil. Voilà. Maintenant, il y a une cohérence de l'histoire, il y a une vérité de l'histoire qui nous a été transmise oralement, par écrit. Donc je continue d'y croire. Plus on avance dans l'histoire, plus on a des éléments. Le père Giton, qui est égyptologue, hein, nous fait remarquer qu'au niveau des noms, des lieux, il y a des choses assez troublantes qui montrent qu'il y a une mémoire sûrement très solide par rapport à l'histoire d'Abraham. Voilà. Alors, plus on avance dans l'histoire, plus on a des éléments archéologiques. Voilà. Josué, disons qu'on est encore dans une phase où il y a très peu d'éléments, mais on peut croire quand même que c'est du sérieux. Voilà. Ça va? Voilà. On pourra reprendre encore à la fin. C'est pas... je ne peux pas. En toute conscience, je ne peux pas vous dire l'histoire de Jéricho, ça s'est passé comme ça, sachant que les archéologues, les biblistes disent ça s'est pas passé. D'autres vous diront de façon très simple, tout le livre de Josué, c'est un mythe construit au 7e siècle. Voilà. Je ne le pense pas. Je pense que ça réfère... Voilà. Vous avez des exégètes qui vont vous dire c'est une histoire qui a été écrite à l'époque royale. Très tardive, avec aucun substrat historique. Je ne le pense pas. Vous voyez? Je pense qu'il y a quand même un fondement. Voilà. Une deuxième question? Ça va? Et j'irai plus vite dans le corps d'Isaac. Très bien. Donc vous gardez, s'il n'y a pas d'autres questions, vous gardez les questions soit pour la fin, soit pour la fois suivante. Hein, c'est comme ça que nous faisons. Voilà. Alors vous avez vu la première leçon, premier cours, je vous ai présenté la liste des figures que nous abordons, et peut-être avez-vous été étonné que Abraham n'apparaisse pas dans la liste de ces grandes figures de l'Ancien Testament. Il y a une très grande figure, et les figures du Christ, on peut se dire, évidemment, on pense à Moïse, on pense à David, pourquoi n'y a-t-il pas Abraham ? Enfin, je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. Alors, il s'agit bien des figures du Christ. Il s'agit des figures du Christ. C'est-à-dire, nous parlons de figures du Christ. Or, Abraham n'est pas dans la même position que le Christ. Le Christ va être présenté comme fils et frère. Abraham est présenté comme un père. Il est le père par excellence. Notre père Abraham, le père dans la foi. Jésus exerce bien sûr une certaine paternité vis-à-vis des apôtres, mais Jésus n'est pas d'abord le père. Il renvoie au père du ciel. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'Abraham soit véritablement une figure du Christ. Donc nous nous intéresserons au fils d'Abraham, Isaac, et la fois prochaine, nous intéresserons à Jacob, qui est lui-même le fils d'Isaac, mais ce qui caractérise Jacob, c'est qu'il est frère. Le fait de dire que Jésus est fils, c'est partout. On dit même le fils. Tout l'évangile de Jean, il est le fils. Et le frère, vous avez au chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, nous aurons l'occasion d'en parler, Jésus a voulu avoir une multitude de frères. Théologiquement, c'est fondamental. Donc, nous nous intéressons à Isaac, le fils. Maintenant que vous avez compris ça, c'est sûr que quand j'ai fait cette introduction, j'ai dit, mais je parle presque tout le temps d'Abraham. Mais bien sûr, pour comprendre le fils et l'enjeu de la filiation, il faut d'abord parler du père et du projet du père. On ne peut pas parler d'un fils sans parler d'abord du père. Une question très importante. Dans une société aujourd'hui où l'homme veut se créer lui-même, veut s'inventer lui-même, l'oubli de la paternité, c'est quelque chose d'assez dramatique. Voilà. Alors, pour comprendre ce qu'est un fils, il faut d'abord comprendre ce qu'est un père. On est vraiment fils si on reconnaît d'abord qui est le père. Alors, je parlerai d'Abraham, et bien sûr, Abraham et Isaac. D'abord, en posant la question de la promesse, il y a une promesse, qu'est-ce qui fait que la promesse peut tenir ? Tout va se faire autour d'une promesse. Ensuite, dans la réalisation de la promesse, je m'intéresserai d'abord à Abraham et ensuite à Isaac. Et bien sûr, après, la deuxième partie du cours, vous connaissez maintenant, c'est Jésus, nouvel Isaac. Voilà, Abraham, Isaac et la promesse. Alors, parmi les patriarches, puisque vous savez qu'on parle des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Isaac est le personnage le plus effacé. C'est le personnage sur lequel on sait le moins de choses. Il y a peu de choses. Presque toute l'histoire d'Isaac, quand vous lisez, vous retrouvez ce qu'on appelle des doublons. Un doublon, c'est quand vous avez un récit et vous retrouvez à peu près le même récit avec quelques nuances. Par exemple, dans l'Évangile, vous avez des exemples de doublons, une multiplication des pains, une deuxième multiplication des pains. Alors, historiquement, il y a sûrement une deuxième multiplication des pains, mais le récit est à peu près pareil. Voilà, on appelle ça un doublon. Alors, dans l'histoire d'Isaac, on a des doublons de l'histoire d'Abraham. Donc, vraiment, Isaac s'efface derrière son père. Voilà. Il y a quelques exceptions, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Finalement, la seule chose qui est dite d'Isaac, ce qui compte de façon tout à fait centrale, c'est qu'il est le fils. Par excellence, il est le fils. Il se caractérise comme étant le fils. Et c'est au sujet d'Isaac que la question justement de la filiation va se poser. Isaac est le second fils d'Abraham dans l'ordre chronologique, puisque vous vous souvenez qu'il y a d'abord Ismaël, mais Ismaël est né de Agar, la servante, c'est une, comment on appelle ça, une mère porteuse, comme ça qu'on dit aujourd'hui. C'était pas tout à fait ce qui était prévu. Et puis, il est second dans l'ordre chronologique, mais il est premier dans l'ordre de la dignité, puisque bien sûr, il naît de Sarah et non pas de la servante. En tout cas, c'est lui qui est le fils désiré, attendu, accueilli. Donc, on voit qu'il y a tout un questionnement sur sa filiation. Et la question de la filiation va être posée de façon dramatique, en amont, bien sûr, avant la naissance, au moment de l'appel d'Abraham. Le passage central, vous le savez, hein, Genèse 12, versets 1, 2, 3, les premiers versets du chapitre 12 de la Genèse, je pense que vous connaissez par cœur, ceux qui ont suivi le cours sur la Genèse ici, il y a 2 ou 3 ans, mais même sans avoir suivi le cours, vous connaissez la Bible, Genèse 12, c'est le démarrage, c'est le moment où la voiture qu'on a bien préparée pendant les 11 premiers chapitres, hein, la voiture a été préparée du chapitre 1 au chapitre 11 de la Genèse, au chapitre 12, on prend le démarreur et la voiture démarre, l'histoire commence. Hein. Donc c'est vraiment un passage très important. Et tout va se concentrer sur la question de la filiation. Dieu appelle Abraham pour lui faire la promesse d'une bénédiction. Une bénédiction pour lui-même, hein, je te comblerai, je te bénirai. Hein, mais aussi une bénédiction pour tous les autres. Donc c'est impressionnant de voir comment Abraham se sent investi à la fois d'une bénédiction de Dieu. Enfin, je crois que rien de plus à dire, énorme. Mais il sait que ce ne sera pas que pour lui, par toi et par ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre. Donc Abraham, tu as une vocation extraordinaire, c'est que tu vas être le canal par lequel va passer la bénédiction pour toute la terre. Voilà. Donc Abraham est porteur d'une promesse. Une promesse, on s'attend à ce qu'elle s'accomplisse, bien sûr. Sans ça, la promesse n'en est pas une. On peut dire véritablement que l'appel fait à Abraham inaugure une histoire nouvelle. Et je vais vous dire, dans la première rédaction de ce texte, j'avais voulu reprendre une idée du cardinal Lustiger que je vous ai déjà cité il y a 2 ans, c'est que ce n'est pas simplement une histoire nouvelle, c'est l'histoire tout court. L'histoire commence vraiment avec Abraham. Le cardinal Lustiger disait « il n'y a d'histoire que s'il y a une direction, s'il y a un appel. Sans ça, il n'y a qu'une succession d'événements. » C'est pour ça qu'on peut dire que c'est le judaïsme et le christianisme qui ont vraiment introduit l'idée de l'histoire dans le monde. Ce n'est pas une question de succession d'événements. L'histoire, ce n'est pas une succession. Je ne sais pas s'il y a des historiens parmi vous. Il y a des historiens ? Il n'y a pas d'historiens. Bah, écoutez, là, je vais parler comme ça. Voilà. Mais l'histoire, ce n'est pas qu'une succession d'événements. L'histoire, hein, c'est un projet qui se déploie. Il y a une cohérence, et cette cohérence, elle est donnée par un appel, par une promesse. Pour que la promesse se réalise, bien sûr, il faut une descendance. Sinon, tout s'arrête avec la mort d'Abraham. Je vous rappelle, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, qu'en hébreu, le mot « histoire », c'est le même mot que « engendrement ». Anissa allait le dire. « Toldot »,« yalad », »,« engendré ». Donc c'est très beau. Nous, on a une vision très théorique, très extérieure de l'histoire. L'histoire, c'est le temps qui s'écoule. Non. Dans les Juifs, l'Ancien Testament nous apprend que l'histoire, ce sont d'abord des personnes qui transmettent une promesse. Toldot, c'est à la fois engendrement et histoire. Donc, Abraham est porteur d'une immense espérance au bénéfice de toute l'humanité. Et tout va dépendre, vous le comprenez bien, de la naissance d'un enfant. Il y a comme une intensité dramatique, au sens le plus fort, au sens le plus noble, dans la vocation d'Abraham. Or, le drame est porté à son point extrême, puisque Abraham est âgé.
Plus de 100 ans.
Voilà, il y a plus de 100 ans. Alors, peut-être au moment de l'appel, mais et Sarah est stérile. Ils n'ont pas eu d'enfant. Bien sûr, Dieu s'est engagé, donc Abraham dit, Dieu s'est engagé, mais aucun enfant n'est né. Ça risque donc de remettre en cause le sérieux de la parole de Dieu. Donc c'est une question qui est grave. Dieu a fait une promesse à Abraham, mais Abraham n'a pas d'enfant. Et Abraham ne se privera pas de le rappeler à Dieu, de rappeler à Dieu sa promesse, notamment au moment de la naissance d'Ismaël, où on pourrait dire, ça y est, Abraham a un fils. Oui, mais il est marié avec Sarah. Et dans la Bible, le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Donc là, c'est une naissance, mais un peu en parallèle. Donc, et c'est à ce moment-là qu'Abraham dit à Dieu, mais attends, tu m'as fait une promesse, comment va-t-elle se réaliser ? Dieu, bien sûr, va lui répondre, C'est déjà la première épreuve d'Abraham. Est-ce qu'il a foi ? Abraham a foi et Dieu lui donne un fils. Pour les vieux époux, Abraham et Sarah, cette naissance qui a été pourtant désirée est tellement inattendue et pourtant elle est réelle qu'elle provoque le rire. Alors le rire a plusieurs interprétations, plusieurs manières de le comprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le rire va marquer Isaac à tel point que le nom de Isaac,
ça veut dire le rire.
Voilà, dans les langues arabes, redit.
Le rire.
Et ça se dit comment en arabe?
Itzhak.
Itzhak. Voilà. Mais c'est pareil en hébreu. Itzhak. Itzhak. Nous on dit Isaac. En fait, c'est Itzhak. Hein, Itzhak. Voilà. Isaac porte en lui le nom du rire. Pourquoi? Parce que sa naissance, c'était comme une sorte de d'éclat de rire. La naissance d'Isaac. On parle de l'incrédulité de Sarah derrière la porte, en fait, derrière la toile de tente. Elle écoute la discussion, elle rit. Hein, tu as ri? Non, j'ai pas ri. Si, tu as ri. Hein, c'est une scène assez extraordinaire. Mais je crois aussi ce que dit André Wénin, je crois, ou Paul Beauchamp, j'ai oublié. Ils disent c'est aussi une joie qui pour elle est marquée par la souffrance. Elle a tellement attendu cet enfant. Elle a tellement attendu cet enfant. Et André Wénin dit elle a tellement peur que ça ne se réalise pas. Donc son rire caché, pourquoi se cache-t-elle? Parce que il y a la joie, et en même temps elle dit mais est-ce qu'il y aura vraiment, vous voyez? Donc voilà, je reprends l'idée de Paul Beauchamp, il dit le rire c'est le relâchement qui s'opère quand on a surmonté une situation d'angoisse, de peur ou d'inquiétude. Vous savez, à un moment ça, on se détend, on explose, oh là là. Hein. Et aussi le sentiment de débordement quand les mots semblent insuffisants. Abraham rit, Sarah rit, parce que Dieu accomplit ce qu'il a promis. Hein. Même si à vue humaine, ça semblait impossible. Voilà, donc, premier point, ce qu'il faut retenir, c'est véritablement que Dieu prend un risque en s'engageant, en promettant, en donnant une parole, eh bien, il va commencer de réaliser cette parole en donnant Isaac. Et Isaac, c'est ce rire, c'est cette joie qui dit ce qui, aux yeux humains, semblait impossible, eh bien, Dieu le rend possible. Parenthèse, quand je dis ça, évidemment, vous pensez au Nouveau Testament. Et c'est ce que je vous invite à faire pendant tout le cours, c'est que quand je vous parle des textes de l'Ancien Testament, vous avez le droit, au fond de vous-même, de relire l'Évangile. Et vous verrez les potentialités énormes du texte, du récit biblique. C'est comme ça aussi que fonctionne le récit biblique, avec des résonances. Alors, la réalisation de la promesse. Voilà, Isaac qui naît, quelle est véritablement la promesse? Il y a bien sûr ce signe que Dieu n'a pas menti. Il donne naissance, c'est-à-dire biologiquement, à un enfant. Mais il ne suffit pas d'engendrer biologiquement un enfant pour être père. Dieu ne s'arrête pas là. Il ne dit pas simplement à Abraham, je t'ai donné un enfant, maintenant la promesse est réalisée. Il faut que cet enfant soit porteur d'une bénédiction. Mais qu'est-ce que ça veut dire être porteur d'une bénédiction? Il faut que l'enfant advienne à lui-même, devienne pleinement ce qu'il est appelé à être. Il y a comme un devenir, il y a quelque chose qui est appelé à grandir. Il faut que l'enfant, que la personne se déploie. Donc, dans la Bible est très sensible à ça. Dans la naissance d'un enfant, il y a bien sûr la naissance biologique, le fait d'engendrer, enfanter, et puis, ce qu'on dit, donner un nom, c'est-à-dire finalement donner aussi une personne, donner une personnalité, à permettre à l'enfant de devenir lui-même. C'est tout le travail éducatif des parents. Abraham et Sarah savent ce que représente la naissance d'Isaac. Sa naissance est le signe visible de la fidélité de Dieu à sa promesse. Si Isaac meurt, la promesse s'efface. Ils sont trop âgés pour engendrer à nouveau. Alors là va se jouer quelque chose de très subtil. Dieu a promis, il réalise sa promesse, Abraham et Sarah ont Isaac, petit enfant, dans leur maison, ils pourraient se l'accaparer. C'est le danger, toujours, depuis le début de la Genèse. Dieu a fait une promesse aussi à Adam. Tu mangeras de tous les fruits de l'arbre du jardin. Adam et Ève se sont emparés du fruit. Est-ce qu'Abraham va s'emparer de son fils? Ils ont le fils de la promesse. Ils ont tellement attendu. Ils pourraient très bien avoir une attitude possessive vis-à-vis d'Isaac. Mais Abraham et Sarah n'oublient pas que la promesse les porte au-delà d'eux-mêmes. Isaac doit transmettre cette promesse. La promesse, elle les porte vers l'avenir. Donc, après eux, il y aura Isaac. Il faut que la bénédiction soit pleinement transmise à leur fils. Que leur fils soit reconnu dans son unicité. Et c'est vrai de tout enfant. Les parents le savent. Évidemment, la naissance d'un enfant, c'est une immense joie pour des parents. Mais les parents savent que le plus gros reste à faire. Que l'enfant grandisse, qu'il ait sa personnalité. Et la joie des parents, c'est quand l'enfant trouve son autonomie, sa maturité, son identité propre. Voilà. Mon fils, tu seras président de Elf Aquitaine. Bon, le fils déploie des talents d'homme de théâtre et il va faire du théâtre et de la littérature. C'est pas ce que les parents avaient prévu. Voilà. Et le fils va réjouir ses parents parce qu'il va devenir un homme de théâtre qui va faire des choses absolument admirables, ce qui n'était pas le programme qui avait été préétabli. Donc il y a une dépossession. Hein. Je dis ça parce que c'est l'exemple que donnait mon frère aîné. Il parlait de président d'Elf Aquitaine. Plus tard, je serai président d'Elf Aquitaine. Parenthèse, il ne l'est pas. Ouais, mais ça m'avait amusé, ce projet, c'était une manière un peu de rire. Et donc, l'enfant échappe à ce que les parents ont prévu. Et il faut que les parents accompagnent le mouvement. Et ça va être l'enjeu de l'éducation pour Abraham et Sarah. On sait que pour tous les parents, pardonnez-moi, d'ailleurs j'ai mis un D, mais j'aurais pu mettre L. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Normalement, c'était elle, mais je vois que c'est D. Pour les parents, la tentation de posséder, de la possession, peut toujours exister. Peut-être que je me trompe. Voilà. Les parents me diront à la sortie. En tout cas, la Bible le présente de façon très claire avec Terah, le père d'Abraham, quand ils sont en Haran. Quand ils vont quitter leur pays, le texte dit ça de façon très fine. Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai. Il les fit sortir. On a l'impression qu'il prend un gros paquet, c'est toute sa famille, mais c'est lui qui les tire, qui les prend. Son fils, sa fille, sa bru, il les prend avec lui et il part. Un peu comme des objets qu'on transporte à sa guise. Or, la première chose que Dieu fait en appelant Abraham, c'est de lui dire « quitte ta famille, quitte ce gros paquet dans lequel tu ne peux pas, duquel tu ne peux pas sortir. Cette possessivité de ton père, il s'agit de faire quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. » Voilà. Donc, Dieu va conduire Abraham sur un chemin de dépossession. C'est l'ultime chemin de son itinéraire. La dépossession, il a son fils, il a Isaac, Isaac va grandir et nous allons arriver à l'histoire du sacrifice du mont Moria, qu'on appelle le sacrifice d'Abraham, dans lequel Abraham, on peut dire, va devenir véritablement père. Voilà. Alors, ceux qui étaient là il y a deux ans, retrouveront beaucoup d'éléments de ce que je vous avais donné quand on avait travaillé le sacrifice d'Isaac, mais il y a quelque chose au niveau par rapport au Christ, au niveau christologique, qui est d'une très grande densité, d'une très grande importance. C'est pourquoi je reviens dessus. Voilà. Donc pardonnez-moi si vous avez le sentiment que je me répète, mais on prend les mêmes textes bibliques et ils ont beaucoup à nous apprendre. Voilà. Abraham devient pleinement père. Prends ton fils, tu l'offriras en sacrifice sur la montagne. Alors la première question qui se pose quand Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils en sacrifice, c'est pourquoi Dieu lui demande-t-il ça? Quel but poursuit-il? Quelle est l'intention de Dieu? Ce sont des questions qui sont légitimes quand on sait ce que représente la vie d'un enfant, offrir un enfant. Apparemment, en plus, c'est un sacrifice, donc il faut le tuer. Et pourtant, c'est l'enfant de la promesse, j'ai suffisamment insisté dessus avant, il y a comme une sorte de contradiction. Hein, offrir son fils, cela veut dire s'en défaire. Et au plan humain, tel qu'on le comprend, ça passe par une mort, ce qui est révoltant, bien sûr, parce que c'est pas bien de tuer, parce que c'est les 10 commandements n'ont pas encore été donnés, tu ne tueras pas, mais ça va pas du tout dans le sens de ce que Dieu a voulu depuis le début. Alors, il y a une manière faussement chrétienne de se faire une raison, de se dire c'est Dieu, il a des droits. Hein, faut pas chercher à comprendre, c'est un mystère. Hein. Dieu a des droits, il y a pas à les discuter et on doit obéir. Ça, c'est très présent dans notre manière de comprendre les choses. Il dit à Abraham, tu vas m'offrir ton fils, tu vas le tuer. Bon, c'est le patron, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le tuer. Attends, mais c'est le bon Dieu. Oui, mais c'est lui le patron. Hein. On fonctionne comme ça. On projette beaucoup sur Dieu notre propre vision des choses. Nous le voyons à notre propre mesure. Hein. Alors, c'est assez dramatique. Parce que c'est finalement s'interdire de comprendre l'intention de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que Dieu, depuis le début de la Bible, depuis le début de la Genèse, Dieu ne supprime pas la vie, il la donne. Dieu ne supprime jamais la vie, il la donne. Dans les actes, alors les paroles où il dit « offre-moi ton fils en sacrifice », qu'est-ce que ça veut dire? Un Dieu qui ne cesse de donner la vie et qui va dire à Abraham, offre-moi ton fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham donne une réponse qui n'est pas théorique, qui ne fait pas de discours. Depuis le début, Abraham fait ce que Dieu demande, et il le fait intelligemment. Il obéit à Dieu sans discuter, c'est sûr. Dieu lui a demandé d'offrir son fils. Eh bien, une fois arrivé au mont Moria, il prend le couteau pour l'immoler. Il le prend parce qu'il n'y a pas d'autre outil pour offrir un sacrifice. Et Abraham, comme tout homme, se dit, offrir un sacrifice, il faut bien que je l'immole. Mais au fond de lui, il y a quand même des paroles troublantes. Alors, je prends moins le temps d'étudier le texte que nous ne l'avons fait il y a 2 ans, hein, parce que ce n'est pas l'unique objet du cours, donc je vais beaucoup plus vite en besogne. Mais dans toutes les paroles d'Abraham, toute l'attitude d'Abraham, on voit que même s'il prend le couteau, au fond de lui, il sait que Dieu va faire ce qu'il faut. Il sait qu'il ne conduit pas son fils vers la mort. Dieu ne peut pas se contredire. Celui qui donne la vie ne peut pas exiger la mort. Il a annoncé aux serviteurs de façon mystérieuse, il a dit « nous reviendrons ». Donc même si l'acte qu'il s'apprête à poser, c'est de prendre le couteau, il s'attend sûrement à ce que Dieu intervienne. Quand les serviteurs ont dit ce qu'il allait faire, il dit « nous reviendrons ». Et puis, à Isaac, qui dit « mais où est l'agneau du sacrifice ?» Isaac aurait pu dire « mon petit gars, j'ai un truc à te dire, je suis un peu assieds-toi, il faut que je t'explique ». Non, il dit « Dieu pourvoira lui-même ». À l'agneau du sacrifice. Étonnant. Comme si Abraham devançait ce qui allait réellement se passer. Comme s'il avait compris intérieurement ce que Dieu lui demandait. Et de fait, Dieu ne lui a pas demandé de tuer son fils. Il y a des mots en hébreu pour dire tuer. Dieu ne lui a pas demandé de tuer son fils, mais de l'offrir. Littéralement, la demande « tu m'offriras ton fils en sacrifice », si on prend l'hébreu, hein, c'est « tu feras monter une montée ». Parce que sacrifice, en fait, c'est faire monter vers Dieu, une réalité de la terre. Vous voyez ? C'est faire monter vers Dieu. « Al » en hébreu. Vous connaissez la compagnie « El Al » ?
Oui.
Voilà. « El Al », ça veut dire « vers le haut ». Voilà. « El Al », on retrouve. Voilà. « El Al », vers le haut. Et sacrifice, en fait, c'est « vers le haut ». Un sacrifice « Ola ». Ola.
Est-ce qu'on peut deviner à peu près quel âge Isaac à cette époque?
Alors ça, j'avoue que je n'ai pas trop en tête. C'est le fils. Ce qui nous intéresse, dans un récit, on ne cherche pas à trouver des circonstances matérielles extérieures qui n'apportent pas grand-chose. Tout est centré sur le fait que Isaac, c'est le fils. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Voilà. Le récit a sa logique, on essaie de comprendre la logique du récit. Ce qui est étonnant, c'est que même si Abraham pose ce geste, tout dans ses paroles traduit ce qu'il a dans le cœur, dans la tête. Et Abraham a bien compris qu'il ne va pas vers la mort, mais vers la vie. Dans la réalisation matérielle, le geste consiste en une mise à mort. Dans la vérité, ce geste est une offrande. Ça montre quelque chose de très important pour nous. Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils. Et Abraham sait que son fils, il pourra le ramener, vivant. Parce que s'il donne à Dieu, pour lui, ce n'est pas une perte. La vie triomphera. Pour nous, donner à Dieu, c'est une perte, c'est une dépossession. Puisque je donne, ça ne m'appartient plus. Je vais donner du temps à Dieu. Je vais à la messe le dimanche matin. C'est ça pris sur mon agenda. Je suis chrétien, je suis pratiquant. C'est quand même déjà pas mal. Hein. Une heure, plus transport, plus l'homélie qui était un peu longue, plus saluer les gens à la sortie. Une heure et demie pour le bon Dieu, c'est déjà pas mal. Bon, c'est ce que j'ai perdu. C'est ce que j'ai perdu. Mais je vais me rattraper. Hein. Voilà. Alors ça, vous voyez, le temps, c'est un peu les vases communicants. J'ai donné à Dieu, donc je perds. Voilà. Alors Benoît XVI avait une belle formule par rapport à ça. Il disait, n'ayez pas peur de tout donner au Christ. Il ne vous prend rien. En lui, vous trouvez tout. Donner à Dieu, ce n'est pas une perte, mais c'est un gain. Ça passe par un dépouillement, mais un dépouillement de soi. Une dépossession de soi. Mais on se trouve soi-même. Isaac va advenir à lui-même. Isaac va se trouver lui-même. Abraham va se trouver lui-même. En donnant tout à Dieu, Abraham trouve sa vraie paternité. Parce qu'il n'est plus dans la possession, mais la vraie paternité, c'est de permettre à l'autre d'exister. La vraie paternité, c'est de permettre à l'autre d'exister. Je sais que c'est jamais complètement facile pour des parents, parce qu'il faut qu'ils acceptent que leurs enfants soient différents les uns des autres, que les enfants suivent le chemin qui est le leur, et d'une certaine manière leur échappe, et c'est sûrement un peu douloureux. De dire « mon enfant », il y a un moment, oui d'accord, mais et ça devient un autre adulte. Voilà. Et pourtant, Dieu a bien dit à Abraham, « celui que tu vas m'offrir, c'est ton fils, celui que tu chéris ». Alors on peut le prendre un peu comme une espèce de, comment on appelle ça, de sadisme, en comprenant mal le texte. Va chercher ton fils, ton unique, celui que tu chéris. Donc, Dieu en rajoute. Et offre-le-moi en sacrifice. Mais dans le cœur d'Abraham, ce n'est pas du sadisme. Même si, au fond de lui-même, il a le cheminement que tout homme a à faire, mais il le fait. Il va falloir qu'il passe de l'idée de « je dois utiliser un couteau » à... en tout cas, le fait d'utiliser le couteau, de dire que ça passe par une mort, ça veut dire « j'accepte la dépossession. Maintenant, je m'en remets à Dieu et Dieu va donner la vie. » Dieu, et ce qui est intéressant dans le récit, c'est que comme Abraham l'a promis, l'a affirmé dans une parole de foi finalement, hein, Dieu pourvoira au sacrifice, il ne savait pas de quelle manière, de fait le récit se termine, il y a l'ange qui arrête la main d'Abraham et qui dit, tu verras, il y a un bélier qui s'est pris les cornes, c'est lui que tu offriras. Donc ainsi, Isaac est épargné, mais Abraham est allé jusqu'au bout de cette dépossession, jusqu'à accepter de prendre le couteau, sachant que c'était la manière humaine de comprendre, et que Dieu l'a laissé faire, parce que humainement, c'est ça qu'Abraham devait faire. Au moment de poser l'acte, évidemment, le Seigneur l'arrête. Alors, une parenthèse que je ne vous mets pas ici, parce que c'est moins directement l'objet de notre cours, la tradition juive, je crois que je vous l'avais dit déjà il y a 2 ans, indique que le bélier, alors évidemment, le bélier par rapport à l'agneau, c'est le père. Donc finalement, c'est Abraham qui s'offre lui-même, qui est offert en sacrifice. Mais il y a aussi la lecture juive qui dit, un bélier en hébreu, ça j'avais dit il y a 2 ans, est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Un bélier en hébreu, ça se dit Elim, Aleph, Lamed, Mem. Il suffit d'ajouter un He pour faire le nom de Dieu, Elohim. Donc les juifs disent, derrière le bélier, c'est Dieu lui-même. parce qu'il n'y a que Dieu qui peut être la véritable offrande. Et c'est déjà une figure du Christ, d'une certaine manière. Bon, c'était une parenthèse. Mais vous voyez la richesse du texte. Alors, là, nous avons vu le sacrifice du côté d'Abraham. Voyons-le du côté d'Isaac. C'est la même chose. Là, on a pris le côté du Père. Oui, j'ai pas parlé du Christ, peut-être. Mais on va parler du sacrifice du Christ. Et là, déjà, ça nous éclaire. L'offrande d'Isaac. Isaac va participer, lui aussi, au sacrifice en tant que fils. Abraham en tant que père, j'ai suffisamment insisté dessus, il a pris son fils, son unique, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Voilà. Maintenant, mettons-nous du côté d'Isaac. Isaac participe au sacrifice. Il faut insister sur le fait que Isaac est fondamentalement fils, tout autant que Abraham est père. Il y a un dialogue qui résume tout, hein, en un verset. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit « Mon père !» Il nomme Abraham « Mon père !» Et Abraham répond « Oui, mon fils voilà. !» Mon père, mon fils. Donc tout est dit. Et quand Dieu s'adresse à Abraham, il parle d'Isaac comme son fils, son unique, celui qu'il chérit. Hein, on note l'insistance. Donc, si Abraham est défini comme père, le père des croyants, Isaac est bien le fils, la figure du fils. Quand son père lui annonce qu'il doit l'offrir en sacrifice, Isaac obéit sans protester. Ça peut paraître un peu étonnant. Hein. Alors, il interroge son père, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Mais il accepte de se laisser conduire par son père. Son père lui a dit, Dieu pourvoira. Eh bien, il fait confiance. Il sait que son père ne le trompera pas et il part avec lui. Ce qui veut dire que cette participation pleine d'Isaac au sacrifice du père fait qu'il offre lui-même le sacrifice, le même sacrifice que son père. Paul Beauchamp, hein, que je cite souvent, hein, Paul Beauchamp commente avec justesse « L'obéissance d'Isaac comme fils l'élève à la hauteur de son père ». Le fils en tant que fils, le père en tant que père, offre le même sacrifice. Cette dépossession de soi, le fait d'être totalement donné à Dieu. Et sa confiance filiale fait qu'au lieu de se révolter, s'il avait un regard uniquement humain ou charnel, sa confiance filiale le conduit à porter lui-même le bois qui servira au feu du sacrifice. Il se laisse ligoter. Comme on ligote un agneau avant de l'immoler. Normalement, c'est l'agneau qu'on ligote avant l'immolation. Ce geste de ligoter celui qui va être offert a tellement d'importance que les Juifs appellent le sacrifice d'Abraham l'akeda, hein, ça veut dire la ligature. Voilà, je conclue sur cette lecture de l'Ancien Testament. Dans le sacrifice d'Abraham, sacrifice au mont Moria, Abraham a appris la vraie paternité en se dépouillant de la tentation de la possession, en s'en remettant à Dieu, en permettant à Isaac d'être lui-même, d'advenir à lui-même. Le rire, c'est ça Isaac. Voilà, toute sa vie va manifester que Dieu a accompli sa promesse. Isaac est une figure d'accomplissement. Isaac, lui, il a compris que sa condition filiale envers son père n'en fait pas un être passif. Le péché d'Adam et Ève, c'est que quand ils voient qu'ils sont créatures, ils disent « Ben flûte, on est créature, c'est pas juste. On aimerait bien avoir notre place, on existe aussi. Hein » aujourd'hui, c'est l'égalité, l'égalitarisme. Hein. On n'aime pas... voilà. Hein, donc, c'est frustrant de ne pas être à la hauteur de celui qui m'a donné la vie. Donc, je m'invente moi-même. Hein, c'est le rêve de notre humanité d'aujourd'hui. Eh ben non. Isaac a compris qu'être fils, ça n'en fait pas un être de seconde zone, ça n'en fait pas un être passif. Hein, il prend lui-même sa part à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors nous en arrivons à Jésus, bien sûr. Il y a déjà beaucoup de choses. Je pourrais presque vous interroger en disant maintenant... Ah ben j'arrête, je vais faire ça. Vous distribuez des feuilles blanches. Vous avez 10 minutes pour mettre par écrit tout ce que vous avez découvert du Christ. Si on faisait ça, Je sens qu'il y a une petite peur quand même. Faites confiance comme Abraham. Voilà, on arrête le couteau à temps. Voilà, ce serait trop compliqué de mise en œuvre. Il y a des profs parmi vous, vous avez fait ça une fois ou l'autre. Hein. On ferme les livres et on... Voilà. Donc je ne vais pas le faire avec vous. C'est moi qui vais dire. Mais je me suis rendu compte, je ne vous cache pas, hein, je vous fais un aveu. En venant ici, je me dis, il y a telle ou telle chose que j'aurais dû dire et que je n'ai pas dit, parce que de fait, le texte est d'une très grande richesse. D'abord, donc Jésus, voilà, grand 2, Jésus, nouvel Isaac. Premier point, la naissance. Revenons sur la question de la naissance. La naissance d'Isaac qui figure la naissance de Jésus. Et c'est peut-être là d'ailleurs que qu'il y a le plus important. Parce qu'on voit Dieu qui accomplit sa promesse, et c'est ça que j'aurais voulu développer davantage, c'est une promesse de bénédiction. La bénédiction est passée par Isaac, puis Jacob, puis les fils de Jacob. Et bien de la même manière, la bénédiction définitive de Dieu passera par Jésus. Donc la naissance de Jésus, il y a un enjeu énorme de la naissance de Jésus. Voilà, comme je vous l'ai dit, Abraham n'est pas une préfiguration de Jésus. Hein. Abraham, c'est un père, Jésus est un fils. Abraham, c'est une figure paternelle. Mais Abraham nous dit quelque chose de la naissance du Christ. Abraham a fait l'expérience de la puissance de Dieu. Hein. Dieu lui a donné à lui et à sa femme un fils malgré leur vieillesse et leur stérilité. Hein. Une naissance qui était attendue et qui a été salué par la joie et par celle de Sarah. J'ai insisté dessus tout à l'heure. On remarque que la naissance de Jésus est accompagnée, elle aussi, d'une très grande joie. Vous avez d'ailleurs une autre figure juste avant Jésus, quelqu'un qui est né alors que ses parents étaient âgés et n'y croyaient presque plus. Et une grande joie se répand dans la... Voilà, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est vraiment le précurseur. Et ça rappelle les patriarches. Jean-Baptiste, il y a beaucoup de choses qui rappellent les patriarches. Vous voyez, la joie de la naissance, c'est pas uniquement « Oh, il y a un enfant !» Non, c'est l'enfant d'une promesse. Malgré la stérilité d'Élisabeth et Marie, et voilà, et puis la vieillesse et la stérilité d'Élisabeth, et puis Marie, évidemment, qui est vierge, donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur le rapport entre la virginité de Marie et la stérilité de Sarah, mais Dieu, rien n'est impossible à Dieu. C'est ce qui est dit dans la conclusion de l'évangile que d'ailleurs nous avons entendu aujourd'hui, hein. Rien n'est impossible à Dieu, hein. Voilà, la maternité de Sarah, hein, la mère d'Isaac, hein, rejoint Sarah rejoint les femmes stériles de l'Ancien Testament, dont la maternité donnée par Dieu annonce la maternité de la Vierge Marie. Rien n'est impossible à Dieu, c'est ce qui était dit au propos de la naissance d'Isaac, et c'est ce qui est dit à propos de la naissance de Jésus. Et donc évidemment, rien n'est impossible à Dieu, Dieu accomplit sa promesse, et bien il y a ce rire d'Isaac, il y a ce rire, cette joie qui accompagne la naissance de Jésus. Abraham a ri, son rire traduisait sa foi en Dieu, qui accomplit ce qu'il promet en déjouant les prévisions des hommes et qui prophétisait la venue du Verbe en notre chair. Vous vous souvenez de la parole de Jésus, « Abraham a vu mon jour et il a ri. » Vous vous souvenez de cette parole, « Abraham a vu mon jour et il a ri. » Pourquoi Jésus dit-il ça? Parce que Abraham a vu que Dieu accomplissait ce qui semblait impossible, eh bien, c'est ce qui se passe avec Jésus. Voilà. Il y aurait aussi tout un développement à faire sur la question de la foi. Par la foi, Abraham sait que ses enfants ne sont pas simplement ceux qui sont nés de la chair, mais ceux qui naissent de la puissance de Dieu. Dieu a manifesté sa puissance par la naissance d'Isaac. Eh bien, Jésus va annoncer un nouveau mode de filiation pour entrer dans l'amitié de Dieu. Il s'agit de naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Et là, c'est tout le développement de saint Paul aux Romains. Tous ceux qui, comme Abraham, ont une foi qui va jusqu'à espérer contre toute espérance, deviennent ses fils. C'est par la foi qu'on entre dans la famille des enfants de Dieu. Abraham, notre père, c'est le père de ceux qui croient. Un deuxième point, d'une importance moindre, mais qui nous rappelle quand même qu'Isaac est une figure d'accomplissement, je vous l'ai dit à propos du rire, Isaac, figure d'accomplissement. Il est peu question d'Isaac dans le livre de la Genèse, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'unique page qui le met en relief s'ouvre par un commandement, celui de ne pas quitter le pays que Dieu lui a donné. Le début de l'histoire d'Abraham, d'Isaac, c'est il doit rester dans le pays. Dieu a promis un pays, il l'a donné à Abraham, maintenant Isaac va y rester. On se souvient qu'Abraham a quitté ce pays, il est allé en Égypte, Jacob a fui ce pays, vous vous souvenez, pourchassé par son frère. Isaac est le seul qui ait vécu vraiment dans ce pays. C'est impressionnant parce que Dieu donne le pays à Abraham, Abraham va aller en Égypte, il va se déplacer, Isaac va quand même y rester, le fils d'Isaac, Jacob, va passer une bonne partie de sa vie chez son oncle Laban. Et ensuite, les fils de Jacob, ils vont partir pour l'Égypte. Quand est-ce qu'ils habiteront enfin la terre de Canaan? 430 ans après, avec Moïse. Donc vous voyez que Isaac est vraiment le seul qui ait vraiment vu la réalité de la promesse. Vraiment une figure d'accomplissement. Ben, c'est intéressant de voir que Jésus n'a jamais quitté le territoire d'Israël, comme Isaac. Pour que s'accomplissent les Écritures. Parce que Dieu a promis de bénir son peuple sur sa terre. Il y aurait une grande réflexion à avoir sur le thème de la bénédiction, le lien entre la bénédiction et la terre. Jésus est resté sur la terre d'Israël. Alors, exceptionnellement, on dit qu'il va dans le territoire de Tyr et de Sidon. Mais peut-être que ça veut dire dans la région frontalière.
Il est allé à Décapolis.
Et ce que j'allais dire, vous parlez plus vite que moi, il va du côté du lac de Tibériade vers la Décapole, exactement, avant de revenir au sud du lac. Voilà. Donc il y a quelques rares exceptions. D'ailleurs, l'histoire de la Décapole est très étonnante, parce que quand vous prenez votre carte et vous essayez de faire l'itinéraire de Jésus, c'est pas du tout cohérent. Donc on se pose des questions sur cette incise dans l'Évangile. Voilà. Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, comme Isaac, Jésus est la figure, il l'accomplit en lui-même. J'aime bien cette idée qu'Isaac, c'est le rire qui dit Dieu réalise ce qu'il a promis. Eh bien, Jésus réalise ce que Dieu a promis, cette bénédiction faite sur Israël. Et enfin, alors, j'ai dit que la naissance était ce qu'il y avait de plus important. Non, on va dire que c'est surtout l'obéissance du Fils. La naissance, c'est le point de départ, la naissance biologique. Mais là, on arrive à advenir à soi-même. C'est le deuxième volet dont j'ai parlé pour Isaac. Naissance biologique et advenir à soi-même. Alors là, c'est ce dont je vais parler. Je vais reprendre très rapidement l'histoire de du sacrifice au mont Moria. C'est cette thématique, on la retrouve surtout dans l'évangile selon saint Jean. C'est dans l'évangile selon saint Jean que la figure d'Isaac revient le plus. Il y a des références, notamment au moment de la passion. La question du sacrifice. Saint Jean, Jean-Baptiste, présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Vous vous en souvenez, dès le début, voici l'agneau de Dieu. L'agneau du sacrifice. C'est une thématique qui renvoie à la Pâque, Exode 12, vous vous en souvenez, Exode 12, la Pâque. La figure du serviteur, l'agneau qu'on conduit à l'abattoir. Mais aussi au récit de Genèse 22, l'agneau qui est offert. Il y a des détails qui font des références de cette manière. Quand, lors de l'arrestation à Gethsémani, les gardes se saisissent de Jésus et le ligote. Pourquoi le besoin de dire il le ligote? Il y a sûrement eu bien d'autres choses qu'ils ont faites. Mais là, il y a une petite référence au fait que Isaac a été ligoté, l'akeda, comme disent les Juifs. Jésus est ligoté comme Isaac a été ligoté. Dieu avait promis à Abraham qu'il pourvoirait à l'agneau du sacrifice. On peut dire qu'avec Jésus qui va sur la croix, la promesse se réalise. Petite parenthèse, dans le récit de la Genèse, Dieu pourvoira à l'agneau du sacrifice. Il y a eu un agneau? Non, c'était un bélier. Là, Jésus lui-même est présenté comme l'agneau. C'est lui qui va être vraiment immolé. Isaac n'est pas mort. Jésus, lui, va vraiment mourir. Donc, il ira jusqu'au bout. Jésus est l'agneau véritable du sacrifice. Et puis, un autre détail important que nous donne saint Jean, Jésus prend lui-même le bois de la croix. Comme Isaac. Étonnant, il prend lui-même. Mais Isaac sait que le but, ce n'est pas d'aller vers la mort, c'est d'aller vers la vie. Et il prend lui-même le bois. Vous avez vu probablement les vitraux de Chartres ou de Bourges, où on voit des mises en parallèle. On voit Isaac qui porte le bois du sacrifice. C'est du bois en général présenté de couleur verte pour montrer que c'est l'arbre de vie. Et de l'autre côté, vous avez Jésus qui porte le bois de la croix, le portement de croix. Et saint Jean nous dit, Jésus porte lui-même la croix. C'est cela le vrai sacrifice. Le vrai sacrifice, c'est pas la mort. Offrir un sacrifice, c'est pas uniquement se priver. Le vrai sacrifice, c'est d'offrir à Dieu librement. Sacri facere, rendre sacré, faire passer à Dieu. C'est ça la définition de saint Augustin. Il dit le vrai sacrifice, c'est de faire passer à Dieu. Pour nous, sacrifice, ça veut dire il y a genre quelque chose qui fait mal, ça fait mal. Ah ben Jésus, il s'est sacrifié. Souvent, on dit ça. À aucun moment, la Bible, Jésus ne dit que la Bible, enfin, Jésus s'est sacrifié. On ne dit pas ça. Il s'est offert en sacrifice. Voilà. René, ouais, c'est à toi de mettre le couvert. Non, j'ai déjà mis la semaine dernière. Enfin, vous connaissez ce genre de discours. Bon, c'est pas grave, je me sacrifie. Hein. C'est encore moi. Hein. C'est encore moi qui vais mettre le couvert. Je me sacrifie. Ouais. C'est-à-dire que je vais me faire du mal. Hein. Et Jésus ne va pas vers la croix en disant je me sacrifie.
Il y a aussi des deux pertes. Je fais sacrifier de quelque chose, c'est je le
perds. Je le perds. Voilà, je perds le temps que je passais à des jeux très intelligents devant mon ordinateur ou à faire des choses qui étaient très très importantes. Je me sacrifie. Quand Abraham a offert son fils, je vous l'ai dit tout à l'heure, il savait que Dieu lui demandait cette dépossession, mais se déposséder de soi pour tout donner à Dieu, ce n'est pas une perte. C'est là qu'on se trouve soi-même. Voilà. Abraham s'est trouvé lui-même. Isaac s'est trouvé lui-même. Et Jésus, en s'offrant à son Père, va se trouver lui-même. Ça passe par la mort, parce que Jésus va assumer cette mort. Mais il faut bien comprendre que ce qui nous sauve sur la croix, et c'est bien parce que on va conclure comme ça, ce qui nous sauve sur la croix, ce n'est pas le fait que Jésus a beaucoup souffert. Et pourtant, Jésus a terriblement souffert, comme personne n'a jamais souffert, parce qu'il a vécu dans son âme toute la... tout l'écart entre l'homme éloigné de Dieu et Dieu lui-même. Donc il a vécu cet abîme, cette solitude de l'homme coupé de Dieu. Donc Jésus sait ce que c'est que la souffrance. Mais ce qui nous sauve, c'est le fait que Jésus, du sein de cette souffrance, de cette mort, va garder son cœur tourné vers le Père, librement, dans l'amour. C'est l'amour qui nous sauve. L'amour qui traverse la mort. L'amour qui traverse la mort. Mais le but, ce n'est pas la mort, le but, c'est la vie. Et Jésus entre dans ce mouvement de vie qui va briser le mur de la mort. Nous, on s'arrête sur la mort. Ah, il y a du sang, ah, il y a de la souffrance. La souffrance, elle ne produit jamais rien. C'est ça. C'est la vie qui produit, c'est la vie du Christ qui est unie à son Père. Voilà. C'est librement que Jésus prend sa croix, librement qu'il entre dans sa passion. Saint Jean insiste énormément dessus. Comme Abraham et Isaac sur le mont Moria, Jésus sait que la volonté de son Père n'est pas une volonté de mort, mais une volonté de vie. Son sacrifice est tout entier contenu, ça c'est très important, son sacrifice est tout entier contenu dans son obéissance filiale, dont Isaac et son père Abraham ont offert la plus belle figure. Il est 22h et 3 minutes et presque 4, et on a commencé à 10. Bon, donc ça nous laisse 2 minutes... Pour poser quelques questions. Oui.
Père, puis-je vous suggérer
une
petite rectification?
Très bien. Donc là où c'est les parents ou des parents. On l'a tenté.
De remettre Théra au chapitre 11 de la Genèse, et pas 12.
Ah oui, alors, merci. Perspicace. Exactement. Exactement. Non, non, mais c'est le chapitre 11. 12:31, il n'est plus question de Terra depuis un petit moment. Merci.
Il y a une rectification.
Oui.
Isaac et Jacob, pas Joseph.
Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de Jacob.
Oui.
Non, c'est bien Joseph.
C'est bien Joseph.
C'est bien Joseph. La question de la fraternité se pose avec Jacob, c'est sûr, mais elle se pose encore plus avec Joseph. C'est la grande question de la fraternité, le grand texte sur la fraternité dans la Bible, c'est Joseph. Le drame de la fraternité rompu par la jalousie est retrouvé. C'est bien Joseph. Non, non, là, de ce côté-là. La prochaine fois, nous parlerons de Joseph.
Une question.
Oui, une question. Alors, on peut commencer.
Je voulais vous demander, est-ce que... Oui, ma question, elle est...
Oui, allez-y, oui.
Est-ce que Abraham, il avait une vie de prière?
Alors...
Vous comprenez ce que je veux dire?
Ben, sûrement, vu son attitude.
Alors, il priait.
Alors, attention, quand on lit les récits bibliques...
Mais il est tellement à l'écoute de Dieu qu'on ne peut, on ne peut être à ce point à l'écoute de Dieu qu'en priant, non?
Sûrement, oui, tout à fait. Moi, je vous parle des textes bibliques. Il faut faire attention à ne pas, vous voyez, essayer de se recomposer la vie d'un personnage comme dans une biographie, un roman. C'est très intéressant, mais c'est déjà autre chose que la Bible. La Bible nous dit ce qui est essentiel pour comprendre la révélation. Or, la révélation, c'est quoi? C'est que Abraham entre dans le chemin d'obéissance que Dieu cherchait chez l'homme et que Adam et Ève ont rompu. Je trouvais extraordinaire que c'est un peu le hasard qui a voulu qu'on aborde ce sujet. Aujourd'hui, c'est l'Immaculée Conception. La foi de Marie, c'est comme la foi d'Abraham. La foi de Marie, c'est l'aboutissement, c'est le résultat parfait. Abraham est au démarrage. Il y a chez Abraham quelque chose quelquefois d'un peu chaotique. Ce ne sera pas toujours facile pour Abraham, c'est vrai. Hein, il y a eu des... C'est un peu encore le terrain rocailleux dont parlait Jean-Baptiste hier. Mais il y a déjà quelque chose de la Vierge Marie chez Abraham. Voilà. C'est ça qui importe pour nous. Est-ce qu'il priait ou pas? Est-ce qu'il avait... Ça, c'est des questions très intéressantes, mais c'est pas directement... Le texte ne s'arrête pas là. Voyez? Oui?
Quand l'enfant dit à son père où est l'agneau,
oui,
du sacrifice, je suppose qu'il n'avait pas conscience que c'était lui qui serait sacrifié.
Alors...
Il pouvait pas...
Encore une fois, dans le texte, on prend ce qui est dit. On ne se met pas à la place du personnage. On ne remplit pas les vides. Ça, c'est une tentation. Une grande tentation, c'est de dire, sûrement Abraham, Isaac, pensait ceci. La seule chose que l'on voit, justement, c'est très intéressant, il y a un silence, c'est le lecteur qui essaye de se positionner, de se mettre à la place d'Isaac. Ce qui est frappant, c'est qu'il accepte. Et petit à petit, il se laisse conduire par son père. Il y a donc, ce que l'on retient, c'est que il n'est pas dans une espèce de distance critique qui fait qu'il fera du surplace, mais il se laisse entraîner, lui aussi, sur un chemin de dépossession. C'est ça que dit le texte. Le reste, c'est nous qui l'ajoutons.
Pardon, de ce que je comprends, le père prend son fils et lui dit « on ira sacrifier un truc
oui. ».
Et sur le chemin, l'enfant se dit « mais où se trouve l'agneau, quoi ?» Après, je suppose bien que pour le mettre sur le bûcher, lui attacher les mains, peut-être, il va falloir lui expliquer.
Ah ben, il y a bien... Mais c'est parce qu'on a besoin de psychologie, parce qu'on fait ça tout le temps. Devant une œuvre d'art, devant un film, on va psychologiser. Le propre de l'œuvre d'art et le propre du texte biblique, c'est de nous centrer sur ce qui est important pour la révélation de foi. On psychologise, il faut apprendre à ne plus psychologiser. On peut le faire pour nous-mêmes, mais lire le texte et... Abraham donne une réponse qui est très forte à Isaac. Dieu pourvoira. La promesse de Dieu n'est pas vaine. Voilà, on arrête là. Allez, une dernière, et puis, oui.
Du sacrifice, vous avez dit une attitude faussement chrétienne. C'est-à-dire que si Dieu l'a demandé, c'est
oui.
Ça nous empêche de comprendre.
Oui.
Mais j'ai du mal à avoir la nuance avec le comportement d'Abraham.
Mais c'est. Il demande un truc insupportable et même révoltant. Il demande de tuer son fils. C'est-à-dire que j'admets que Dieu est un Dieu qui peut demander de tuer le fils. Ben, moi, non. Et donc, il y a une révolte au fond de moi. C'est l'histoire de Job. Il y a ceux qui disent, allez, Job, t'as les malheurs, c'est que le bon Dieu, il te punit. Job, il dit non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Dieu, c'est pas ça. Et Dieu donne raison à Job. Parce que si je dis, bah oui, il demande de tuer, bah d'accord, ça veut dire, oh Dieu, c'est comme si j'ai Loïc, par exemple, il y a un truc complètement nul, Loïc a demandé de le faire, c'est nul. Oui, mais Loïc a demandé de le faire. Bon, bah, c'est qu'il est nul. Alors, je dirais, non, c'est pas possible que Loïc ait demandé ça. C'est, s'il a demandé, c'est qu'il a peut-être une autre intention.
D'accord, donc il fait, mais en sachant que, en fait, il y a une sorte de...
Toutes ces réponses montrent qu'il sait que Dieu le conduit vers la vie. On n'en sait pas plus. Ouais. Il obéit, Dieu pourvoira au sacrifice et nous reviendrons. Voilà. Et il est revenu et Dieu a pourvu à l'agneau du sacrifice. Voilà, on va pour les complices. S'il y a encore une question, je peux répondre là, mais je ne vais pas vous mettre... Voilà. Il y avait une... Oui.
C'est le Fils se trouve dans l'obéissance au Père.
Oui.
Et j'ai du mal à raccrocher ça avec Jésus, qui justement, lui, vient du Père.
Mais il vient
qui partage,
du...
Qui partage justement son intimité, puisqu'il ne fait qu'un avec lui.
Ce qui caractérise le Fils, c'est qu'il reçoit son être... d'un autre, le fait être comme autre. Il y a donc une altérité, il y a une distance. Et voilà. Il a la même vie que le père, un peu comme un papa et une maman, les gènes des parents, on va retrouver le programme ADN. Mais n'empêche qu'il y a quand même une altérité, c'est une autre personne. Donc il y a une liberté du père, il y a une liberté du fils. Et Jésus va librement, dans son humanité, adhérer à la volonté du père. Et il le dit tout au long de l'évangile de Saint Jean, il est venu pour accomplir la volonté du Père. Donc, ce qui unit le Père et le Fils, ce n'est pas uniquement le fait qu'ils ont la même substance, ça, ils ont la même substance, mais c'est deux personnes qui ont la même substance, qu'est-ce qui va se passer entre elles? Eh bien, ce n'est pas uniquement l'unité de substance, c'est l'unité d'amour. C'est le fait que le Père dit quelque chose à son Fils, et le Fils adhère. Ce qui distingue Jésus de son Père, c'est qu'il a une, on peut dire, une sorte de liberté, de volonté propre, qui ne l'éloigne pas de Père. Et ça ajoute quelque chose. L'unité de substance, on peut être dans une espèce de vision, ça, c'est ce qu'on appelait le modalisme, par exemple, c'est une hérésie qui disait, il y a une entité, c'est Dieu, et il a plusieurs visages. Alors non, la vraie foi, c'est de croire qu'il y a trois personnes distinctes. Et ce qui les unit, c'est l'amour. Et dans l'amour, il y a la liberté. Donc Jésus qui obéit à son Père, c'est « Je sais que le vouloir du Père pour moi est bon et je l'accomplis dans mon humanité. C'est » C'est compliqué ou... Oui, c'est la question de la volonté. Est-ce que Jésus a une volonté ou pas? Eh bien, dans son humanité, Jésus a une volonté qui est distincte et qui va s'accorder à la volonté du Père. C'est le cœur du salut, hein, c'est un saint qui s'appelle... Saint Maxime le Confesseur, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler, c'est un père de l'Église grecque du 6e, 7e siècle, et il dit finalement, il réfléchit sur qu'est-ce qui va nous sauver. Ben, Adam et Ève, c'est pas le fait qu'ils ont fait un truc que c'était pas bien, ça, Dieu en a vu d'autres, mais c'est le fait que leur volonté qui était faite pour l'amour, pour la vérité, s'est portée sur quelque chose qui n'était pas Dieu. Donc, c'est pas le fait que l'homme soit différent de Dieu, c'est le fait qu'il s'approprie c'est son propre vouloir, ce que je veux comme je veux. Voilà. Mais Jésus, lui, c'est pas ce que je veux comme je veux, c'est ce que le Père m'a demandé. Parce que je sais que c'est une volonté qui est bonne. Mais il offre sa liberté. C'est ce qui se passe avec Marie. Hein, que tout se passe pour moi selon ta parole. Donc, on passe d'une union naturelle, sans se poser de questions, à une union de liberté, de volonté. De charité. C'est la charité qui nous sauve. Ouais. Voilà.
La liberté de l'homme n'est dans le bonheur que si elle est ajustée à la volonté du Père.
Vous êtes d'accord que pour qu'il y ait le bonheur, il faut être dans un bien, on ne peut pas être dans un mal.
C'est la liberté dans la volonté de Dieu.
Voilà.
Ajustée à la volonté, oui, de Dieu.
Voilà. Voilà. Alors pour nous, on a beaucoup de mal à l'imaginer. Voilà, parce que pour nous, la liberté, c'est je fais ce que je veux comme je veux. Mais c'est dire on met sur le même plan des choses qui ne sont pas sur le même plan. C'est-à-dire choisir un bien ou choisir quelque chose qui est nul. Humainement, je veux dire, au moins comme ça, j'ai le choix, je suis libre. Mais si je choisis quelque chose qui est nul, ben, ma liberté va se réduire. Un enfant, si vous êtes dans la rue, vous voyez, je vais aider quelqu'un, évidemment, il faut que je me bouge. Ou alors je reste dans mon petit égoïsme, j'ai la liberté, n'empêche que si vous allez aider quelqu'un, vous verrez que vous aurez engagé votre liberté pour quelque chose qui vous fait grandir en liberté. la liberté n'est jamais aussi grande que quand elle se porte vers un bien, vers l'amour, vers la vérité. Voilà. Quand elle est ajustée à Dieu. Donc saint Augustin dit la liberté la plus grande, c'est d'aimer. Alors il dit, mais dans ce cas-là, c'est automatique, on n'a pas le choix. Si, parce que la liberté, c'est l'élan du cœur dans lequel je dis je m'engage, je me donne.
C'est l'ajustement parfait.
C'est l'ajustement parfait, mais qui vient du fond de mon cœur, que je pourrais garder pour moi-même. Dans ce cas-là, c'est un renoncement à ma liberté.
Ça, c'est la santé, l'ajustement du cœur. Enfin, l'élan du cœur parfait,
Mais on est capable de cette santé, on est capable tous de la vivre. Parce que dans des petits choix quotidiens que vous faites au quotidien, vous dites, quand je prends l'exemple de on est occupé à son truc, et puis vous avez, je ne sais pas quoi, quelqu'un à côté de vous qui dit, est-ce que tu peux me donner un coup de main, ça me rendrait vraiment service. Il y a un moment, en regardant le sourire, machin, vous arrêtez ce qui vous intéressait, vous dites, je vais faire du bien à cette personne. C'est tout petit, mais vous dites, j'ai le sentiment d'avoir donné un peu de moi-même, d'avoir renoncé à un plaisir immédiat. Je donne en général l'exemple aux enfants avec la tablette. Vous savez, dispute sur, je suis en train de jouer, mais non, on avait dit que c'était moi au bout d'un quart d'heure, mais ça fait une heure, etc. Bon, ben, si tu renonces, tu es capable de laisser la place à l'autre, après tu te sentiras plus... tu auras grandi, tu auras plus de liberté, plus de joie, voilà, que si tu étais replié sur toi-même. Voilà. Mais Jésus, il a reçu de son Père tout, la gloire, etc. Il ne la garde pas pour lui-même. Il entre dans cette obéissance d'amour. Et nous, on peut faire des petits gestes quotidiens comme ça. Voilà. Alors, ça passe sûrement par un renoncement, c'est sûr. Mais pour un amour. Donc, pour un bien plus grand. Oui, c'est ce qu'on voit, ce n'est pas la mort, c'est la vie. Voilà. Oui, bonne soirée. Alors, je pense qu'on est à temps pour les complis, parce que comme tout le monde a commencé en retard. Voilà.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude.